Oui, c'est vrai, notre Seigneur est toujours bon. Il est bon, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Il est bon parce qu'il nous a donné le soleil. Il est bon parce qu'il t'a donné la santé. Il est bon parce qu'il t'a renouvelé encore ce souffle de vie qu'il nous donne gratuitement et par sa grâce. Et rien que pour ça, nous pouvons le louer et le glorifier. Rien que pour ça. Souvent, on se lamente, mais on oublie ce que le Seigneur fait jour après jour dans nos vies. Ce matin, nous voulons méditer ensemble la parole de Dieu. Et pour cela, je vous invite de prendre vos Bibles et d'ouvrir dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, c'est juste après Hébreux. Et avant la première épître de Pierre. C'est entre Hébreux et la première épître de Pierre. Donc Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 4, c'est un passage qu'on connaît très 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 bien. Jacques au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Jacques, chapitre 4, le verset 13 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Le verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises qui est de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as accordés par ta grâce de pouvoir partager ta parole de Dieu. Seigneur, avec notre propre intelligence, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. C'est pour cela que nous te demandons que tu puisses nous aider par ton esprit de pouvoir contempler les merveilles qui se trouvent dans ta parole, Seigneur. Conduis-nous maintenant, ouvre nos yeux, non seulement nos yeux aussi, mais nos cœurs pour pouvoir aussi garder cette parole. Merci pour toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le passage que nous venons de lire se situe ou se trouve juste vers la fin du chapitre 4 de Jacques. Et nous voulons peut-être remonter un tout petit peu au début du chapitre 4 et ensuite revenir sur notre passage que nous venons de lire. Et si nous voyons bien le chapitre 4 tout au début, le premier verset. Mais pour bien comprendre la situation aussi, nous devons voir le dernier verset du chapitre 3. On ne va pas remonter jusqu'au chapitre 1, je vous garantis. Alors, voyons le dernier verset du chapitre 3. Le dernier verset du chapitre 3, c'est un beau verset qui parle de la paix. Les fruits de la justice, le verset 18 du chapitre 3, les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le chapitre 3 se termine par une bonne note, la paix. Et brusquement, tout de suite, le chapitre 4 et le premier verset du chapitre 4, il commence par quoi? D'où viennent les luttes? Le contraire de la fin du chapitre 3. Le chapitre 4 commence par des luttes, des querelles, des divisions, la convoitise. C'est exactement le contraire. Mais l'auteur de cet épître, Jacques, il a beaucoup insisté sur beaucoup de choses, il a donné beaucoup d'enseignements. Si nous pouvons prendre peut-être parmi tout ce qu'il reprochait aux Juifs de l'époque, c'était la convoitise. Par là de la convoitise, Jacques dit que les choses que eux y convoitaient, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui semaient des désordres, des querelles, des divisions. Alors Jacques dit que parmi les choses qu'il convoitait, toutes ces choses n'étaient pas mauvaises. Ces choses qu'il convoitait n'étaient pas mauvaises. Ils étaient peut-être utiles et nécessaires. Parce qu'il est dit au verset 2, il est dit au verset 2 du chapitre 4 que Dieu leur donnerait même ces choses s'il les lui demande. C'est que les choses qu'il convoitait n'étaient pas mauvaises. Mais ce qui provoquait le conflit, c'était de demander ces choses dans un seul but de satisfaire leurs désirs. C'était dans un seul but de satisfaire leurs désirs. Au lieu de se confier à Dieu et de rester dans la dépendance de Dieu pour leurs besoins, ils cherchaient à obtenir ces choses sans la volonté de Dieu. Ils cherchaient à obtenir ces choses sans la volonté de Dieu, de qui nous obtenons toutes choses par grâce. Car la parole de Dieu dit dans Jacques 1, 17, « Car toute grâce excellente et tout don parfait descendent et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Jacques 1, 17. Donc, le problème n'était pas les choses qui faisaient l'objet de leur désir, mais la manière de demander et d'obtenir ces choses. Ils ne demandaient pas pour que le nom de Dieu soit glorifié, ni pour accomplir la volonté de Dieu, mais pour accomplir leur propre volonté. Parce que dans leur cœur, il y avait quoi? Il y avait déjà la convoitise. C'est pour cela que Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le verset 3 du chapitre. Alors revenons dans notre passage à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Dans ce passage, Jacques s'adresse à ceux qui forment des projets. Il s'adresse à ceux qui forment des projets. Il s'agit évidemment des hommes d'affaires de l'époque qui faisaient leurs projets. Et Jacques s'adresse à eux. Pourquoi il s'adresse à eux? Il s'adresse à eux parce qu'ils veulent que ces Juifs de l'époque qui puissent comprendre qu'ils doivent dépendre de Dieu dans toutes choses, qu'ils doivent être soumis à Dieu dans toutes choses. Et ce passage nous montre l'exemple type d'un homme d'affaires de l'époque, même d'aujourd'hui aussi. Il nous montre l'exemple type de quelqu'un qui veut faire des affaires, comme on dit couramment. Je veux faire des affaires. Et il y a un exemple type que Jacques nous donne. Alors cet homme qui fait son projet, Il ne fait pas les choses à moitié. Il fait son projet complet. Il pense à tout. Il prévoit tout, selon lui. D'abord, le verset 13, cet homme qui a fait son projet pour l'avenir, il commence d'abord par fixer le jour de son voyage. D'abord, il fixe le jour où il envisage faire le voyage. Et si nous regardons au verset 13, qu'est-ce qu'il dit cet homme? Il dit « aujourd'hui ou demain ». Là, il dit « ok, aujourd'hui ou demain ». Je trace. Alors, il ne s'arrête pas là. Il prévoit ensuite l'endroit ou la ville, là où il va aller faire ses affaires. Il sait là où il va faire ses affaires. Et le verset 13 nous dit, telle ville, bien que le nom n'est pas cité, mais il savait, dans telle ville, c'est là où je vais faire mes affaires. Et ayant confiance en lui-même, dans la maîtrise du temps et de l'avenir, il va encore plus loin pour prévoir le temps et la durée de son activité. Il prévoit la durée de ses affaires. Combien de temps je vais faire mes affaires? Il prévoit ce temps-là, comme s'il était le maître des temps et des circonstances. Alors que dans le cantique que nous venons de chanter tout à l'heure, il nous est dit que Dieu est le maître souverain, le temps est entre ses mains. Mais lui, il dit, ça fera une année. C'est comme s'il était le maître du temps et le maître des circonstances. Ce n'est pas tout. Il continue ses prévisions. Il continue son plan, son projet. Il pense même à quel genre d'activité je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire? Et il était précis. Le verset 13 nous dit, nous trafiquerons. C'est-à-dire, il va faire le commerce. Il sait quand est-ce qu'il va partir. Il sait dans quelle ville il va partir. Il sait combien de temps il va rester là-bas. Et il sait qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Mais ce n'est pas tout. Ayant toujours confiance en ses capacités de bon gestionnaire, il était peut-être un bon financier celui-là. Ayant sûr de lui-même, ayant confiance en lui-même, en ses capacités, à son intelligence, à sa façon de voir les choses, il fixe même l'objectif à atteindre. Il fixe l'objectif à atteindre. Il dit, nous gagnerons. C'est-à-dire, nous ferons des bénéfices. L'idée de perdre de l'argent ou de faire une perte ou de faillite ne traverse même pas son esprit. Lui dit, on fera une année là-bas, on fera des affaires, nous allons faire des bénéfices. Pas autre chose. Il était sûr et certain qu'on va faire des bénéfices. Quand je préparais ce message, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, un ami. Après, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, non, donc je suis en train de méditer sur le verset 13. Je l'ai lu, le verset au téléphone. Il m'a dit, ah bon? Bon, il n'est pas croyant. Il m'a dit, mais, oh, et alors? Où est le problème? Est-ce que prévoir, c'est mauvais? Où est le problème? Vous comprenez pas? Mais où est le problème? Alors, posons-nous maintenant cette question. Alors, où est le problème? Où est le problème? Est-ce mauvais de prévoir ou avoir l'intention d'aller faire des affaires dans telle ou telle ville? Est-ce que c'est mauvais? Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Mais si Jacques leur a fait des reproches, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, où est le problème? Comme l'a dit un de mes amis, où est le problème? Le problème, c'est l'assurance que cet homme d'affaires avait de croire que la vie ne dépend que de lui. L'assurance qu'il avait que sa vie ne dépend que de lui. Le problème, c'est de penser que la vie n'était faite que de la volonté de l'homme. Cette assurance en soi qu'il avait l'a amené à oublier que c'est Dieu qui est le maître de sa vie et de son avenir, et non le contraire. C'est Dieu qui est le maître de sa vie et non le contraire. Et comme nous l'avons chanté, le temps sont entre les mains de Dieu et non entre les mains de l'homme. Ce qui ne va pas, c'est que le projet de cet homme est fait avec la sagesse humaine, avec la sagesse terrestre et non avec la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Il a fait son projet, non pas avec la sagesse d'en haut, mais avec la sagesse humaine, la sagesse terrestre. Parce que dans son projet, dans son plan, il y a tout sauf Dieu. Il a tout prévu, il y a tout dans son plan, dans son projet, sauf Dieu. Dieu est mis à l'écart. Comme disent les jeunes, je ne te calcule même pas. Donc, il ne calcule même pas Dieu. Donc, Dieu n'y est pas. Il a exclu Dieu. Il a exclu la volonté de Dieu. Pas une seule fois, il a cité le nom de Dieu dans son projet. Dieu est écarté. Rien ne nous indique dans le passage que nous venons de lire que cet homme a prié Dieu avant de prendre sa décision. Rien ne nous indique. Rien ne nous dit dans le passage qu'il a pris un temps pour prier Dieu. Il ne pense pas, et ce qui est un peu surprenant, ce qui est surprenant, il ne parle pas au conditionnel, que si le temps sera bon, je ferai ceci. Non, il ne parle pas au conditionnel. Au conditionnel. Donc, il est ferme. Il est sûr et certain que les choses vont se passer comme lui le veut. Ignorer la volonté de Dieu, la confiance qu'il avait en lui, l'a conduit à se dire qu'il était capable de réaliser son projet sans l'intervention de Dieu. C'est ce que nous pouvons comprendre si nous lisons bien son projet, qu'il était capable d'atteindre son but, de réaliser son projet sans l'intervention de Dieu. Alors que c'est Dieu qui est le maître des temps et le maître des circonstances, nous dit la Bible. Rien ne l'empêche d'atteindre son but. Dans son projet, il ne pense même pas aux imprévus ou aux choses qui ne marcheront pas comme prévu. C'est pas dit dans son projet. Donc, tout va se dérouler comme il l'est dit. Il ne prévoit pas des imprévus. Il ne prévoit même pas, peut-être il va neiger pendant un mois et que donc, les affaires... Non, il ne pense pas aux imprévus. Rien du tout. Il se croit maître de sa vie. Et pire encore, il se croit maître de sa santé. Il ne pense même pas qu'il peut tomber malade pendant 2 mois. Non, lui n'a pas pensé à ça. Il sait qu'il sera en bonne santé pendant tout ce temps-là. Il ne pense même pas à ses finances parce qu'il est maître de ses finances. Il ne pense même pas que la crise qu'il y a eu, en 2000, c'était en 2015 ou 2016, à l'époque du président Sarkozy, où les gens ont perdu beaucoup d'argent. Lui, il ne pense même pas à ça. Parce qu'il est maître de tout. Il se croit au-dessus de tout. Et il prend orgueilleusement la place de Dieu. Et en un mot, c'est de l'orgueil devant Dieu. C'est de l'orgueil devant Dieu. Et Jacques dit dans Jacques 4, 6, ça a été dit ce matin, que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il vit sa vie et comme si l'avenir lui appartenait, au lieu de recevoir le lendemain de Dieu, il veut se l'offrir lui-même. Il s'offre lui-même son avenir au lieu d'attendre de recevoir le lendemain de Dieu. Chers frères et sœurs, cette histoire nous rappelle la parabole de Jésus-Christ, de l'homme riche que nous connaissons très bien. Nous allons peut-être lire cette parabole dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 16 avant. Luc chapitre 12, à partir du verset 16. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Le verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Pour qui sera-t-il? Voilà l'histoire de quelqu'un qui a fait plein de projets à propos de ses récoltes et projette l'avenir, sa vie dans l'avenir sans tenir compte de la volonté de Dieu. Et qui ignorait même ce qui lui arrivera la nuit même. Mais Dieu l'a qualifié d'insensé. Dieu l'a qualifié d'insensé. Dieu lui a dit, cette nuit même, pas demain, mais cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? C'est comme notre homme d'affaires dans Jacques chapitre 4. Cet homme qui prévoit tout sans tenir compte de la volonté de Dieu. Faire des projets et avoir une vision pour l'avenir n'a rien de mauvais. C'est bien de prévoir, n'a rien de mauvais. Ce que la parole de Dieu condamne, c'est faire des projets sans les soumettre au Seigneur et sans lui demander son approbation. C'est ce que Jacques condamne. Faire des projets, c'est bien. Mais faire des projets sans tenir compte de la volonté de Dieu, sans prier, sans demander l'autorisation, l'avis de Dieu, c'est ce que Jacques condamne. Nous avons beau faire des projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplira dans nos vies. Nous pouvons faire tous les projets possibles que nous voulons, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplira dans nos vies. Et dans Proverbe au chapitre 19, le verset 21, Proverbe 19, 21, je vais lire pour vous, il est écrit ceci, Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. » Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce qui s'accomplira, ça sera la volonté de Dieu. Non seulement cet homme d'affaires n'a pas tenu compte de la volonté de Dieu, il a oublié que une chose encore très, très importante, que notre vie sur terre est très courte. Notre vie est fragile. Tout peut arriver. Tout peut arriver si le Seigneur le permet. Tout peut arriver. Et cet homme d'affaires a oublié cela, que sa vie était courte, que sa vie est fragile, la brièveté de la vie, que notre vie est comme ça, là, comme ça. Même si nous, on le voit comme ça, mais notre vie, il est comme ça. Il a fait des projets, un an en avance, et pourtant, cet homme qui a fait des projets un an en avance, il était incapable de savoir ce qui peut lui arriver le lendemain. La parole de Dieu dit toujours dans Proverbe au chapitre 27, mais le premier verset, je vais lire pour vous, Proverbe 27 et le premier verset, la parole de Dieu nous dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. » Ne te vante pas. Ne te vante pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Même pas demain, ce soir même. Même pas ce soir, cet après-midi même. Nous ne savons pas. C'est pour ça que la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Remarquons que comment cet homme d'affaires était plein de confiance et plein d'assurance pour l'avenir. Il était ferme. Il était plein d'assurance. Aujourd'hui ou demain, nous irons, nous gagnerons, nous trafiquerons. Nous ferons des bénéfices. Personne ne connaît son avenir. Tout dépend de Dieu. Personne, même nous qui sommes là, nous ne connaissons pas notre avenir, chers frères et sœurs. Tout dépend de Dieu. La vie est faite d'imprévus et de circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Et cela nous rend capables de prévoir le lendemain. Notre vie n'est pas incertaine pour Dieu, mais notre vie est incertaine pour nous. Pour nous. Ce n'est que lorsque nous faisons la volonté de Dieu que nous pouvons avoir confiance de l'avenir, de notre avenir, car nous savons que c'est Dieu qui nous conduit. Quand nous faisons la volonté de Dieu, ce n'est qu'en ce moment-là que nous pouvons avoir confiance de l'avenir. Parce que nous savons que nous ne marchons pas seuls. Nous sommes avec notre Seigneur. C'est Dieu qui nous conduit. Et comme lui connaît l'avenir, et comme c'est lui qui me conduit, eh bien je peux lui faire confiance et je fais confiance à l'avenir. Parce que c'est Dieu qui me conduit. Notre vie est comparée à une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vie est fragile et la parole de Dieu utilise plusieurs images, plusieurs figures pour nous démontrer que la vie est courte, que la vie est fragile. Dans Job chapitre 7, verset 7, Job 7, verset 7, Job compare la vie à un souffle. Il est dit dans Job 7:7, Job dit que la vie n'est qu'un souffle. Et c'est vrai, un souffle. Et plus loin encore, Job dit, toujours dans le chapitre 7 au verset 9, Job compare la vie à une nuée. Et il est dit ceci, comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. La vie est comparée à une nuée. La vie est comparée à un souffle. Mais ce n'est pas tout. Dans Psaume, la vie est comparée à l'ombre. Et l'ombre qui apparaît et qui disparaît. Psaume 102, le verset 12, Psaume 102, 12 dit que nos jours sont comme l'ombre à son. La vie est comparée à l'ombre. Nos jours sont comme l'ombre à son déclin. Et enfin, David dit, toujours dans le psaume, David compare la vie à l'herbe. Il est dit ceci dans Psaume 103, 15. Psaume 103, 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. L'herbe. L'herbe qui pousse après, on coupe, on jette au feu. Je ne sais pas si nous comprenons la brièveté de notre vie, la fragilité de vie, de notre vie, que la vie est courte. C'est pour cela que dans Jacques, compare la vie à une vapeur qui paraît et qui disparaît. On peut se résumer en disant ceci, que la vie, c'est une vapeur. La vie, c'est une nuée. La vie, c'est un souffle. Et la vie, c'est pas un souffle, mais c'est comme un souffle. Et la vie, c'est comme de l'herbe. Voilà les images, les figures que Dieu, que la parole de Dieu utilise pour nous faire comprendre que notre vie n'est rien ici sur terre. Que notre vie est comme ça, très petite. Nos vies sont fragiles et imprévisibles. Tout peut nous arriver à tout moment, car la vie ne nous appartient pas. Et notre avenir n'est pas le résultat de nos efforts d'aujourd'hui. Chaque détail de notre vie dépend de Dieu, en commençant par la vie elle-même. Chaque détail de notre vie dépend de Dieu, en commençant par la vie elle-même. Nos projets doivent être faits selon la volonté de Dieu. Et le verset 13 dit, « Vous dites, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons, nous trafiquerons, nous gagnerons. » Mais le verset 15 nous dit, le verset 15, et ce que Jacques reprochait à ces hommes de cette époque-là, c'est ce que Jacques leur reprochait, il dit, vous vous dites aujourd'hui ou demain, mais le verset 15 nous dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Remarquez ce que Jacques dit. Il dit, vous devrez au contraire dire, si Dieu le veut. Et c'est très important. Mais dans le Dieu le veut, il y a des choses. Avant, il disait, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons. Remarquez bien le verbe qui sont utilisés. Nous irons, c'est le verbe aller. Mais ce que Jacques leur dit, il dit, au contraire, il faut dire, ne dites pas que nous irons. Il faut dire d'abord, si Dieu le veut, nous irons. Non, nous vivrons d'abord et ensuite, nous ferons. Il y a deux choses. Pour faire, il faut vivre. Il faut vivre d'abord, frère. Eux, ils disent que nous irons. Mais tu es sûr que tu vas vivre pour aller? faut vivre, faut être en vie pour aller. Un exemple tout bête. Un mort, un cadavre, quelqu'un qui est mort. Est-ce qu'il peut aller? Il peut marcher? Déjà lui-même, pour qu'il parte au cimetière, il faut qu'on l'amène. C'est que pour aller, il faut vivre d'abord. Et ce que Jacques dit au verset 15, il faut dire d'abord que si Dieu le veut, nous vivrons et ensuite, nous pouvons faire autre chose. Si Dieu le veut, nous vivrons. Cela voudrait dire que nous reconnaissons la souveraineté de Dieu dans notre vie. Nous reconnaissons la souveraineté de Dieu dans notre vie. Et que la durée de notre vie est entre ses mains. C'est ça que ça voudrait dire. Avant de penser à faire quoi que ce soit. Reconnaître que ma vie, la durée de ma vie est entre les mains de mon Seigneur. Lui seul sait combien de temps je peux vivre. Lui seul sait. Et de deux, nous reconnaissons. Si nous disons, si Dieu le veut, nous vivrons, nous reconnaissons aussi la volonté de Dieu que notre vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Je reconnais cela. Un peu plus loin, vous verrez que dans Job 12, 10, Job dit, c'est Dieu qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute chair d'homme. C'est Dieu qui tient ça à la main. C'est pour cela, avant autre chose, souvent on dit que si Dieu le veut, demain je serai là. D'accord, si Dieu le veut, demain tu seras d'accord. Tu seras en vie? Demain? Tu as la garantie que demain tu seras vivant? Donc nous devons au contraire dire, si Dieu le veut, nous vivrons. C'est ce qui est dit au verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Lorsque nous disons que si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela, nous reconnaissons que l'accomplissement de nos projets est entre les mains de Dieu. Car c'est lui qui a le contrôle et c'est lui qui contrôle et accomplit tous nos projets. Comme nous l'avons dit au début, que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais ce n'est que la volonté de Dieu qui s'accomplit. En disant que si Dieu le veut, nous vivrons, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous reconnaissons que l'accomplissement de mes projets est entre les mains de Dieu. Contrairement à ce que croyait cet homme d'affaires. Chers frères et sœurs, ne faisons pas de ces paroles, si Dieu le veut, comme une simple récitation comme nous étions à l'école, mais que ça soit vraiment une attitude de cœur. Que cela vienne de notre cœur, que cela puisse nous amener à comprendre que c'est Dieu qui peut tout. Seule la volonté de Dieu qui peut tout. Nous pouvons citer l'exemple de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul, je vais chercher le passage, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 19, s'adressant aux Corinthiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté de Dieu. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. L'apôtre Paul, il faisait tout le temps référence à la volonté de Dieu. Il dit, j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté de Dieu. Même s'il voulait, même s'il avait vraiment ce désir, mais il se laisse emporter, il se laisse Il se laisse dépendre de la volonté de Dieu. Parce que tu peux vouloir, mais la volonté de Dieu peut être le contraire. Tu veux, mais Dieu ne veut pas. Dieu veut autre chose. Et tout ce qui est volonté de Dieu est toujours bon pour nous. Est toujours bon pour nous. Nous pouvons voir aussi, s'adressant aux Éphésiens, toujours l'apôtre Paul, dans Actes 18. Dans Actes 18, au verset 21. Cette fois-ci, il était à Éphèse. Et avant de quitter Éphèse, il dit ceci. On peut peut-être commencer à partir du verset 19 pour bien comprendre. Ils allèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs. Le verset 20, les Juifs qui les prirent de prolonger son séjour. On lui demande, non, reste avec nous, ne pars pas, reste avec nous. Mais qu'est-ce que Paul leur dit, le verset 21, mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il est parti d'Éphèse. Encore un autre exemple de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 16. Concernant l'église de Corinthe, toujours. Et les versets 5 à 7. Il est dit, à partir du verset 5, « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même j'y passerai l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois-ci, je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Si le Seigneur le permet. » Voilà un bel exemple que nous pouvons suivre. Que Paul, dans tout ce qu'il faisait, il faisait précéder d'abord la volonté de Dieu avant. Il se soumettait à la volonté de Dieu. Et on peut citer beaucoup d'exemples plus loin. Il dira que non, je voulais aller là-bas, mais le Seigneur a fermé les portes. Donc c'était la volonté de Dieu de fermer les portes, donc tu n'y vas pas. Si le Seigneur le permet, si Dieu le veut, si le Seigneur le veut, devrait accompagner chaque projet que nous faisons. Ça ne doit pas être... Souvent, moi je travaille souvent avec certaines personnes qui disent cela, mais en d'autres langues, mais c'est devenu une formule comme ça. Non. Il faut vraiment être soumis à la volonté de Dieu, si Dieu le veut, si Dieu le permet. C'est très important. Chers frères et sœurs, il n'est pas bon de dire, si Dieu le veut, dans certains cas, dans certains domaines de la vie, et de l'ignorer dans l'autre. On ne fait pas le tri dans cela, la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il faut dire, si Dieu le veut, il faut prendre en compte la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Pas seulement pour le travail, je ne le prends pas. Pour quand j'ai des problèmes, je le prends. Non, dans tous les domaines de notre vie, nous devons prendre en compte, en considération, la volonté de Dieu. Tout ce qui touche à notre vie est important aux yeux de notre Seigneur. Tout ce qui touche à notre vie est important à notre Seigneur. Vous savez, pour conclure, que la vraie foi en Jésus-Christ produit la dépendance de Dieu. Celui qui a la foi en Christ doit dépendre de son Seigneur, doit dépendre de la volonté du Seigneur. Tout dépend de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire doit dépendre de Dieu et non de notre propre intelligence, comme ce fut le cas de cet homme d'affaires, et non de notre sagesse humaine, terrestre, et non même de nos richesses. Non, tout ce que nous pouvons faire doit dépendre de Dieu. Former des projets sans inclure Dieu provient d'un cœur orgueilleux. Dieu qualifie cela d'orgueil. Cela amène à se glorifier soi-même au lieu de glorifier Dieu. Et pour finir, chers frères et sœurs, je vais finir par une petite phrase qu'a prononcée un serviteur de Dieu que j'ai trouvé vraiment très intéressant aussi. Écrivons nos projets au crayon et laissons la gomme et les stylos à Dieu pour qu'il puisse corriger là où ça ne va pas, rectifier là où ça ne va pas. Écrivons nos projets au crayon et laissons la gomme pour gommer et les stylos à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.